C'est un mot que l'on emploie tous les jours, toute l'année. C'est une notion qui rythme nos vies. C'est le jeudi soir, le lundi matin, le dimanche après-midi, le mercredi midi, le jour, la nuit. Il est partiel ou complet, trop court ou interminable. Dans le 37e numéro de Place Publique, il est à l'honneur. Dans cette émission, j'espère que vous ne le sentirez pas passer. Je parle du temps. À l'heure où votre réveil vous indique le début de la journée, le métro vous informe de votre retard, votre téléphone portable souligne l'urgence et les chaînes d'information en continu rendent obsolètes les journaux de 20h, ce premier numéro de Chercheur en ville saison 2 veut ralentir la cadence. Pas question dans cette émission d'arrêter le temps, mais plutôt d'expliquer et d'analyser les temps. Ces moments clés dans une journée ou une semaine, ces instants décisifs dans un mois ou une année. Ceux dont vous êtes parfois spectateur, mais surtout, et souvent sans le savoir, les acteurs. Pulsations urbaines, les mille temps de la ville, c'est tout de suite et pendant une heure.
Chercheur en ville, une émission proposée par Canal B en partenariat avec Place Publique, la Maison des sciences de l'homme en Bretagne et la Wikiradio de l'UEB.
Et notre invité du jour est le sociologue Christophe Moreau, ce spécialiste des questions de jeunesse a participé à la rédaction du dernier numéro de Place Publique. Il répond aux questions du rédacteur en chef de la revue, Xavier de Montride.
Bonjour Renan, bonjour à tous.
Et de Christian Lebarthe, directeur de la Maison des sciences de l'homme en Bretagne.
Bonjour Renan.
Messieurs, c'est à vous.
Merci beaucoup Renan pour ce lancement qui, je l'espère, donnera envie à nos auditeurs de se plonger dans ce dossier du numéro 37 de Place Publique. On est parti à la recherche, j'allais dire, du temps perdu, c'est presque ça. On a rencontré les acteurs, les observateurs, les décrypteurs, je ne sais pas si ce terme est correct, pour parler du temps qui passe dans la ville, une ville à mille temps. Et avec vous, Christophe Moreau, nous nous sommes particulièrement intéressés à un temps particulier que les auditeurs de Canal B connaissent bien, qui est le temps de la fête, le jeudi soir, mais pas que. C'est un de vos sujets de prédilection en tant que chercheur, associé à la chaire jeunesse de l'École des hautes études en santé publique, le HESP. Vous observez ces pratiques depuis déjà plusieurs années, vous les comparez, vous les mettez en perspective, et le texte que vous nous avez transmis pour ce dossier de Place Publique, vous l'avez intitulé « Plaidoyer pour une ville altruiste ». On a envie, en le lisant, de se dire que la fête pourrait peut-être être différente que ce qu'elle est vraiment, si on s'écoutait davantage et si on s'acceptait aussi dans nos différences. C'est ça le message, Christophe Moreau ?
Mais le message, en fait, c'est que la fête et la nuit sont des moments qui sont très chargés émotionnellement, quoi. Hein, et le message, c'est que comme on est des animaux diurnes, on a tendance à chercher la lumière, la visibilité, et puis nos villes sont construites pour l'activité principalement productive. Or, la nuit, je pense qu'on a besoin de travailler sur la question des émotions dans la ville, sur la question de la place de la culture, du partage des émotions. C'est pour ça que je parle d'altruisme, on pourrait parler aussi d'empathie, mais en même temps, le sociologue qui prône le faire la fête en ville, c'est bien que c'est une question très complexe, on doit aussi être altruiste à l'égard de ceux qui veulent dormir. Donc là, il y a des intérêts divergents, on sent bien que la ville simplement diurne n'est plus suffisante aujourd'hui, on a l'électricité quand même depuis quelques décennies aujourd'hui, on peut s'affranchir de la nuit naturelle. Mais ça suppose vraiment d'investir politiquement cet espace-temps qui est celui de la nuit, de négocier, de trouver des terrains d'accord pour faire qu'on puisse cohabiter dans cette ville. Donc voilà un petit peu pourquoi j'ai parlé d'altruisme dans le titre.
Et un altruisme qui ne va pas de soi, parce que vous l'avez souligné à l'instant, il y a une forme de coexistence, même de friction entre des populations qui ont des rythmes différents durant cette période nocturne de la ville. Il y a ceux pour faire court et pour schématiser, ceux qui dorment ou qui essayent de le faire, ceux qui travaillent parce qu'ils ont une activité professionnelle qui les oblige à travailler ou les conduit à travailler durant cette période. Et puis il y a ceux effectivement qui investissent l'espace public dans un esprit de fête, de partage et parfois aussi de décibels. Et c'est pas facile de concilier tous ces rythmes-là.
Oui, tout à fait. Puis d'autant que les lieux pour accueillir les publics fêtards ont quand même eu tendance à diminuer ces dernières années. J'évoque le nombre de cafés qui s'élevait à 200 000 en France dans les années 60. Aujourd'hui, il en reste 30 à 35 000. Et c'est vrai qu'on peut s'interroger sur une ville comme Rennes, et pas seulement, sur les lieux qui peuvent accueillir des gens qui ont envie de danser après 1h du matin, par exemple. Donc il y a sans doute un déficit de lieux, il y a des nouvelles façons de faire la fête, et du coup c'est vrai qu'on a vu à partir des années 2000 beaucoup de gens débarquer sur l'espace public et consommer notamment de l'alcool sur la rue, qui ont posé plein de questions et qui ont mis un petit peu à l'agenda politique cette question de l'espace public la nuit et de la fête en ville la nuit, quoi.
Peut-être une remarque ou une question avec vous, Christian Lebarthe, de la messagerie.
Je crois qu'on sera tous d'accord sur l'idée qu'il y a une pluralité d'usages de la ville et que parmi les multiples... Je ne sais pas, j'allais dire fracture, le mot fracture est peut-être fort, trop fort, mais parmi les multiples oppositions qui rendent un peu compliqué la cohabitation d'une même communauté sur un même territoire, il y a le rapport au temps. Les groupes n'ont pas le même rapport au temps. Est-ce que, en poussant le raisonnement de ce constat sociologique vers un questionnement un peu plus politique, parce qu'on en arrive finalement à la question à qui appartient la ville et qui a le droit de décréter le temps de la ville, est-ce qu'on peut faire l'hypothèse qu'il y a au fond un usage nocturne de la ville qui appellerait une citoyenneté particulière, qui appellerait des formes de régulation finalement différentes de celles qui président aux activités diurnes?
Une police de la nuit, c'est à ça que vous pensez?
Non, ça peut être aussi des formes de régulation qui ne sont pas uniquement sur le principe du maintien de l'ordre, mais aussi il y a des expériences de maires responsables de la nuit ou une quasi-utopie politique de cet ordre.
Oui, en tout cas, ce qui me paraît évident, c'est qu'on a pensé à gérer l'espace, à planifier l'espace. Les politiques urbaines ont été principalement des politiques spatiales. Et depuis les années 90, on prend en compte davantage la question temporelle. Donc ce qui est sûr, c'est que ça ne s'agit pas d'une police de la nuit, mais d'une politique de la nuit. La police, c'est la cité. Faire que la nuit aussi, il y ait de la cité. Et c'est vrai par rapport à ce que vous disiez, c'est aussi la question de savoir à qui appartient la ville. Est-ce qu'elle appartient... Je prends le cas d'un centre-ville comme celui de Rennes. Aux 20 000 personnes qui habitent le centre-ville, ce vendredi soir, ou est-ce qu'elle appartient aux 300 ou 400 000 métropolitains qui vont venir être usagers des espaces publics et des services, notamment des cafés, des bars qu'il y a la nuit? Donc c'est la question, est-ce que cette ville, sur ce temps particulier de la nuit, elle appartient à ceux qui résident dans ce quartier, ou elle appartient plus largement à tous les usagers de cet espace?
Alors Christophe Moreau, vous venez d'introduire une dimension qui me paraît essentielle et que j'aimerais bien qu'on approfondisse avec vous, qui est celle justement du découpage territorial. On parle de la ville dans sa globalité, mais quand on l'observe justement dans le cadre d'une analyse temporelle, il y a peut-être une dimension infra à creuser. Il y a le centre-ville qui réunit des lieux de fête, des bars, des lieux de sortie, des centres culturels également, et puis des quartiers périphériques où là effectivement la question de la tranquillité se pose sans doute dans des termes un peu moins forts. Vous avez observé ça, cette concentration dans un hypercentre très urbain, souvent le centre historique de la ville concernée, qui finalement concentrerait toutes les tensions?
Oui, alors là, je pense que, il y aurait deux choses à dire. Bon, d'une part, effectivement, une concentration de l'activité nocturne dans certains quartiers. Donc ça, c'est ce qu'a bien montré le géographe Luc Gazinski, qui
de Grenoble, si
de Grenoble, ouais, qui a initié les traversées nocturnes, qui a accompagné la ville d'Amsterdam pour justement instaurer un maire de nuit. Qui était récemment, la semaine dernière, il y avait un colloque organisé par les Pierrots de la Nuit à Paris, ils organisaient une traversée nocturne. Les Pierrots de la Nuit, ce sont des médiateurs un peu artistiques qui fréquentent les trottoirs parisiens pour calmer un petit peu la sonorité des fêtards, quoi.
Ça marche ? Ils ont des résultats ?
Oui, ça donne des résultats intéressants. On pourrait évoquer ça pour la charte de la vie nocturne.
On en parlera
à Rennes,
tout à l'heure.
En tout cas, ce que montre bien Luc Gazinski avec des cartographies, c'est que plus vous avancez dans la nuit après 21h, 22h, 23h, avec des petits points lumineux qui représentent l'activité commerciale ou les services, petit à petit, l'activité se resserre dans un hypercentre qui est très concentré, puis petit à petit, après, tout s'éteint entre 3h du matin et puis 6h du matin. Et ce qu'on a vu, donc, deuxième chose à l'échelle de la ville de Rennes, finalement, c'est qu'on avait concentré beaucoup de licences 4 et beaucoup de quartiers à l'époque, place Saint-Anne, je me souviens, il y avait les platanes, on garait nos voitures, et puis c'était déjà la rue de la soif.
Quelle grande époque.
La grande époque, n'est-ce pas, que bon, parmi les auditeurs, beaucoup, je pense, ont connu. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a concentré de plus en plus de licences 4 dans cet hypercentre. Et puis, années 90, années 2000, on avait pronostiqué une diminution des effectifs étudiants, puisque la démographie allait à la baisse. Or, on s'est aperçu qu'avec les masters, les doctorats, l'accueil d'étudiants étrangers, on avait un nombre grandissant d'étudiants, et puis on avait de plus en plus de monde, et que notre centre-ville, notre hypercentre, il était devenu étriqué. Par là-dessus, le métro arrive, et vous vous retrouvez avec des hordes de fêtards concentrés sur deux rues et la place Sainte-Anne. Et là, on se dit, non, il faut élargir le centre-ville, il faut l'étirer vers le bas. Et puis toute la question, c'est celle, pour employer un terme un peu compliqué, c'est celle du polycentrisme. Comment faire que dans la ville de Rennes, comme ça peut être le cas à Nantes, on va avoir plusieurs lieux et tout ne soit pas concentré au même endroit. Donc là, on paye les frais un petit peu d'erreurs de programmation urbanistique. Et donc, il est sans doute urgent de travailler sur des centres, des lieux qui vont accueillir une activité nocturne et festive ailleurs qu'en centre-ville. Alors c'est ce qui se passe un petit peu avec la nuit des 4 jeudis. Hein, on va avoir des équipements. Alors il y avait déjà des équipements, je pense à l'Antipode, puis il y en a beaucoup d'autres.
Pour les musiques actuelles.
Hein, oui. Pour les musiques actuelles. Mais on va petit à petit disséminer comme ça différents lieux. On peut écouter de la musique, danser, faire la fête, et puis élargir notre hypercentre qui était devenu étriqué.
Ça, c'est la tendance que l'on observe aussi dans toutes les grandes métropoles. Hein. C'est cette recherche d'une sorte de polycentrisme qui serait aussi la promesse d'une nuit un peu plus apaisée.
Ben oui, pour déjà libérer le souci des riverains de l'hypercentre, et puis aussi pour des raisons simplement démographiques. Hein. Quand on est à une époque de mobilité et que notre ville, à l'époque, on était à 200 000 habitants, aujourd'hui, avec la métropole, on est à plus de 400 000. Bon, ben, comment faire que tous ces flux de personnes puissent trouver des lieux pour se divertir, s'amuser, danser? Et puis, il y a aussi une logique économique derrière. Hein. Il y a des bars à faire vivre, il y a des équipements privés, des équipements publics qui génèrent aussi toute une économie la nuit. Hein. Donc dans beaucoup de villes, je pense, si on pense à Nantes avec bon, le hangar à bananes, ils ont recréé un lieu. Alors on peut être pour, on peut être contre, mais n'empêche, il y a toujours cette idée d'élargir un hypercentre qui est devenu trop petit et trop bruyant.
À vous écouter, je me pose la question de savoir comment finalement ces lieux-là, ils émergent. Est-ce que c'est de la création d'une volonté publique, municipale, par exemple, de dire que finalement on va investir un ancien hangar industriel pour le transformer en lieu de la nuit officiel, entre guillemets, ou est-ce que ce sont des lieux, des endroits qui tout d'un coup vont faire unanimité parce que on va s'y retrouver, parce que les réseaux sociaux vont fonctionner et que c'est là que au départ on va pas être nombreux et puis finalement de plus en plus. Et est-ce que vous avez observé ces deux approches, l'une un petit peu organisée et l'autre totalement spontanée dans le choix de ces lieux de fêtes nocturnes?
Voilà, faudrait analyser ça précisément, mais ma tendance, j'aurais quand même tendance à dire que au niveau français, on aime bien que les choses soient structurées par l'administration et les pouvoirs publics, et c'est un petit peu les pouvoirs publics qui vont quand même dicter le pas aux initiatives privées.
C'est pas le cas dans d'autres pays que vous avez pu observer, je pense en Allemagne par exemple, c'est peut-être un peu différent.
Bon, après j'ai pas une connaissance de tous les systèmes européens, mais si vous allez par exemple aux Pays-Bas ou même en Espagne, je pense que l'initiative privée, enfin dans les pays de la Méditerranée, les initiatives privées ont libre cours, quoi. On va pas venir vous dire à quelle heure vous devez fermer vos magasins, quoi. Hein.
Si on change de temporalité, le débat renvoie aussi à la question du travail le dimanche. Et là on voit bien à quel point, j'ai envie de dire, le capitalisme a besoin aussi de s'étendre sur le temps de la nuit et sur le temps du dimanche et sur des temps qui, a priori, lui échappaient jusqu'à présent. Alors, le capitalisme, c'est pas une personne, mais on peut voir combien il y a de la régulation par les pouvoirs publics aussi de cela.
N'oublions pas, avec vous, Christian Lebarque, que tout est politique, toujours. Hein. On voit que mais c'est intéressant d'avoir aussi cette analyse. Le temps du dimanche, on en a parlé, effectivement, dans le dossier de place publique, à la fois à travers, comme en écho un petit peu à la polémique autour de l'ouverture des magasins le dimanche, et puis aussi avec la volonté récente affichée par la municipalité rennaise d'animer les dimanches rennais, puisque l'annonce en a été faite durant le dernier festival des tombées de la nuit en juillet par la maire elle-même, qui a annoncé que dorénavant, à partir du printemps 2016, ce sont les dimanches, la gestion ou l'animation des dimanches rennais serait confiée à l'équipe des Tombées de la Nuit qui vont avoir cette mission-là de pouvoir proposer une programmation diversifiée, tout public, multiforme et sans doute aussi multilieu, pour rebondir sur ce que vous nous disiez, Christophe Moreau, sur la nécessité d'avoir ce polycentrisme dans le dans l'animation. Et ça va être intéressant. Alors pour l'instant, il est trop tôt de savoir ce qui va en sortir, ce que l'équipe de Claude Guinard va concocter pour ces dimanches à la Rennaise. Mais en tout cas, on est bien dans cette logique-là aussi d'avoir des propositions qui sont à la fois un petit peu au carrefour du public et du privé, d'une certaine manière.
Et ce qui, rappelle aussi que ce qui caractérise la ville, c'est l'absence de temps mort, au fond, hein, parce que ces temps, que ce soit le dimanche ou la nuit.
Ouais, enfin, à Rennes, quand même, il y a eu pas mal de temps mort le dimanche. C'était même un peu une des réputations que cette ville avait d'être triste, morne et déserte, dès qu'il commençait, à être, dès qu'on était dans cette période du dimanche.
Non, mais on a tous souvenir de ces dimanches après-midi un peu glauques ou adolescents.
Il y en a qui ont fait des chansons.
Et donc, c'est vrai qu'il y a de l'ennui le dimanche. Bon, après, Christian a raison de dire que on est dans une société néolibérale et on n'aime pas trop les creux. On aime bien, pouvoir générer de la production économique aussi les dimanches. Mais bon, je veux dire, c'est pas que le fait privé et capitaliste. On est aussi sur des schémas où les villes tirent profit de cela parce qu'il y a des enjeux d'attractivité. Après, sur la question de l'animation de la ville le dimanche. Bon, moi, je n'ai pas forcément d'avis sur la question, mais ce que je trouve dommage, si vous voulez, c'est que ce soit encore une fois la puissance publique qui vienne donner le là et puis dicter un petit peu l'organisation à venir. Donc, je trouve dommage que lors de la première journée des Assises de la Culture, des états généraux de la culture, la maire de Rennes indique qu'elle aimerait bien réfléchir à développer l'animation le dimanche. Donc ça, c'est l'introduction. Et puis en conclusion des états généraux de la culture, on risque d'avoir comme conclusion qu'il va falloir animer la ville le dimanche. Et on va confier ça donc aux Tombées de la Nuit, avec tout le respect que j'ai pour cette équipe formidable. Moi, je trouve que le rôle d'une municipalité et de la politique, c'est aussi de s'appuyer sur les initiatives qui existent. On a plein d'associations de jeunes, d'artistes, on aurait sûrement aussi des commerçants, enfin je veux dire il y a plein d'initiatives citoyennes, privées, il y a une société civile à Rennes et moi je trouve
que... Il n'est pas dit que les Tombées de la Nuit ne s'appuieront pas sur celle-ci pour faire la proposition de la programmation, on verra.
Tout à fait, mais par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, si vous voulez, la question c'est comment on va réussir à coupler une organisation politique avec de l'initiative privée et comment les pouvoirs publics travaillent avec la société civile, et là-dessus je trouve que ça coince un petit peu, hein. C'est pour ça qu'à une époque on concentrait toutes les licences 4 dans une rue, bon ça c'était le fait des pouvoirs publics, bon aujourd'hui on va vouloir organiser les choses autrement, moi ce que je dis c'est qu'il n'y a pas de solution simple, on est sur des questions éminemment compliquées et tout le travail qui est à construire c'est une méthode pour dialoguer, pour associer, bon c'est ce qu'on appelle la gouvernance, enfin moi mon Christian est spécialiste plutôt de ces questions là. Mais la gouvernance, c'est plus le prince qui gouverne, c'est la société civile, les acteurs économiques, les acteurs politiques, et c'est toute cette méthode-là qu'il faut travailler à Rennes. Pour l'instant, on est sur des choses que j'appellerais plutôt descendantes.
Alors, oui, mais enfin, toutes vos remarques visent à rappeler cet énoncé anthropologique, me semble-t-il, assez fondamental, qui est que le temps est une catégorie politique, comme disait Xavier Dondry tout à l'heure, et la maîtrise du temps, c'est bien de l'ordre d'un pouvoir symbolique politique très 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 fort. Le pouvoir d'État impose un calendrier d'État. C'est pas complètement hasard s'il y a des horloges au fronton des mairies, où il y en avait sous la Troisième République. La maîtrise du temps, c'est un enjeu social très très important. La maîtrise du calendrier, la maîtrise de l'horaire, la maîtrise de l'agenda. Et donc, qu'une municipalité aujourd'hui s'investisse sur ce chantier, ça n'est rien d'autre au fond qu'une étape assez prévisible de la décentralisation.
D'autant que Rennes a une longue tradition en la matière. On le rappelle dans le dossier de Place Publique. Il y a depuis maintenant 13 ans à Rennes un bureau des temps, hein, dont l'objectif est justement d'analyser, d'observer et de formuler des préconisations sur l'harmonisation de ces différentes temporalités de la ville. Vous disiez, Christophe Moreau, à l'instant qu'il fallait sans doute imaginer une gouvernance un petit peu nouvelle pour s'emparer de ces questions de rythme, et notamment de rythme soit dominicaux, soit nocturne. J'aimerais bien que vous approfondissiez un petit peu votre analyse. On vous sent un peu critique, et c'est tout à fait votre droit par rapport à la démarche que l'on observe ici à Rennes. Est-ce qu'il y a des démarches ou des méthodes qui fonctionnent ailleurs, que vous avez pu observer et dont il pourrait être utile de s'inspirer ?
Après, je pense que c'est simplement la méthode du dialogue et que les conclusions ne soient pas énoncées avant qu'on ait fait le travail de prospective. Après, je n'ai pas connaissance de méthode exemplaire, mais dès lors qu'on fait de la prospective...
On ne fiche pas a priori un résultat, c'est ça, vers lequel on veut attendre.
Et puis, avec tout le respect qu'on peut avoir pour un élu de la République, ce n'est pas forcément lui qui a la réponse et qui a la connaissance de phénomènes aussi complexes. On est sur des intérêts divergents, contradictoires, et je suis plutôt partie prenante de ce qui est énoncé dans votre revue par rapport à la charte de la vie nocturne où il serait question de monter un conseil de la nuit. Enfin, c'est des négociations permanentes de proximité, une réflexion où on doit associer les différentes parties en présence. Hein. Après, moi, je trouve très bien d'organiser des choses la nuit et le dimanche. Mais à condition que des associations de créateurs, des associations de jeunes, des acteurs privés aient aussi droit au chapitre. Hein. C'est juste ça la question.
Avec à chaque fois la limite que l'on se fixe collectivement, de savoir jusqu'où on peut pousser les limites, notamment en termes de nuisances, de bruit, d'occupation de cet espace public et de ces temporalités qui viennent s'entrechoquer entre, encore une fois, en caricaturant un peu, ceux qui dorment et ceux qui s'amusent.
Avec le risque, par rapport à la question de la nuit, à la différence d'autres enjeux politiques, c'est que là, on a une action publique qui est moins transversale. C'est-à-dire que quand vous parlez du vendredi soir ou du samedi matin, on va vous parler transport, activité commerciale, santé, sécurité, etc. Quand on parle de la nuit, on a tendance à se focaliser sur les questions de sécurité publique, voire un petit peu de santé. Et on oublie complètement la question de la culture, la question de l'éducation, la question des transports, vous voyez. Donc je suis d'accord pour dire qu'il faut qu'il y ait une organisation politique de ce temps-là au même titre que d'autres temps de la ville. Mais attention à ne pas réduire la question de la nuit à des questions de sécurité ou à des questions de prévention de l'alcoolisme, parce que c'est beaucoup plus vaste que ça. Mais pour autant, depuis une vingtaine d'années, le prisme politique est un petit peu réduit.
Alors, est-ce que ce n'est pas lié aussi à... Je dirais ce qu'on a envie d'appeler les imaginaires liés à la nuit, c'est-à-dire que historiquement, l'imaginaire de la nuit est un imaginaire de la subversion. La nuit, c'est l'envers du jour et c'est le déploiement d'un contre-ordre social, d'une contre-société qui est l'inverse de tout ce qui se passe la journée. Alors, est-ce que aujourd'hui, on assiste, si je vous suis bien, à un mouvement au fond de normalisation, de standardisation, d'un temps qui serait un peu un temps continu, c'est-à-dire au fond la nuit, il y a de la culture, il y a du marché, il n'y a pas que de la délinquance et de l'incivilité. Donc, du coup, cet imaginaire, est-ce qu'il n'est pas en train de disparaître?
En tout cas, il y a une composante imaginaire, effectivement. Il y a une opposition entre le diurne et le nocturne. Si on prend des schémas de mythologie grecque, Apollon, c'est la visibilité, le jour, le contrôle. Et puis Dionysos, c'est la nuit, l'invisibilité, l'ivresse, les émotions. Et c'est vrai qu'on est toujours sur ce binôme-là.
On est toujours dessus.
Je pense, parce que ça a été montré aussi en anthropologie. Je veux dire, la culture humaine se construit aussi sur des bases biologiques. Et notre rythme journalier, l'alternance veille-sommeil fait qu'on ne peut pas comme ça oublier qu'on est des animaux durs. Donc il y a toujours, je pense, cette opposition imaginaire entre le jour qu'on contrôle et puis la nuit qu'on ne maîtrise pas. Et ça rend justement plus difficile la transversalité de l'action publique et puis du coup on va être plutôt focalisé sur des problèmes de santé et de sécurité.
Je vous cite Christophe Moreau en conclusion de votre article dans Place Publique. Vous écrivez « L'enjeu central de la nuit urbaine n'est donc pas sans doute tant la tranquillité que le meilleur progrès des libertés. » On a l'impression qu'à travers cette affirmation, vous avez une vision qui dépasse largement les enjeux qu'on a l'habitude de traiter quand on s'intéresse à la nuit, mais que vous placez quasiment ce débat-là à un niveau politique, on l'a dit, philosophique et même dans l'approche d'une certaine humanité, faire humanité ensemble. D'où votre titre, hein, cette société altruiste, la nuit altruiste. On n'est pas un petit peu dans un rêve désincarné quand on voit comment ça se passe en réalité, les fins de soirée un peu arrosées du jeudi soir et pas seulement.
Mais d'où la question de la liberté. Et la liberté de ma liberté s'arrête où celle de mon prochain commence. Et donc j'ai repris ces réflexions à Jean-Michel Lucas, qui avait été donc un universitaire rennais, qui avait été aussi responsable d'une DRAC il y a fut un temps, et puis qui a travaillé avec nous en 2005 quand on a écrit les cahiers de doléances pour une meilleure gestion publique de la fête. et qui était récemment à Nantes pour les journées nationales autour de la nuit organisées par Culture Barbare. Et donc, ce qu'il disait justement, à mon avis, c'est pertinent, c'est que la question, c'est pas la tranquillité publique, mais c'est la liberté. Donc, la liberté de celui qui veut dormir, la liberté de celui privé qui veut prendre une initiative. Enfin, et comment on fait dialoguer ces libertés-là et au nom de quoi ce serait la sécurité et la tranquillité publique qui auraient le dernier mot.
Pour les faire dialoguer ensemble, il faut un lieu pour ça, il faut qu'il y ait une instance particulière qui puisse leur permettre de se rencontrer.
Des négociations de proximité. Le droit est là pour nous protéger quand on n'arrive pas à s'entendre, mais il faut arrêter de sortir des multiples décrets, des normes anti-bruit, tout un tas, l'interdiction du tabac dans les bars, tout un tas de dispositifs législatifs, en fait, qui ont mis du désordre dans la nuit. Hein, parce que dans les années 90 ou début des années 2000, quand on a créé ces états généraux de la nuit, de la fête, on était lié à des normes contradictoires. On était confronté à l'impossibilité de diffuser de la musique dans les bars, l'impossibilité de répondre aux normes phoniques. Il y avait tout un tas de contraintes qui font qu'on faisait porter de plus en plus de responsabilités sur l'acteur privé et on ne partageait pas les responsabilités à l'échelle, d'une collectivité. Donc toute la question, c'est pas simplement s'arrêter à la tranquillité publique, mais travailler sur des négociations entre la société civile, les riverains, les acteurs privés, les acteurs publics, pour qu'on arrive à chacun exercer nos libertés. Hein, et notre liberté, ça peut être aussi d'avoir de la culture ou d'avoir un service commercial la nuit.
On a rencontré des patrons de bar, justement, qui nous ont donné leur regard sur la nuit rennaise vue du comptoir. Et certains d'entre eux évoquent effectivement une situation en 2015 un peu comparable à ce qu'ils avaient connu dans les années 80. Et pour ne pas s'en inquiéter, mais dire qu'il y a peut-être une nouvelle forme, justement, à recréer d'occupation polycentrique. On retrouve cette idée-là dans différents lieux et pas uniquement super concentrés dans le centre-ville, mais de nouveaux lieux de concerts ou de bars musicaux qui SM également dans les quartiers. Et ça, vu de leur fenêtre, c'est plutôt un bon signe.
Oui, tout à fait. Mais ça, c'est un vrai besoin. Hein. Et bon, on peut dire aussi que l'initiative de la ville de Rennes autour de la nuit des 4 jeudis, bon, je pense que c'est un exemple intéressant d'ouvrir des services, des piscines, des équipements culturels la nuit, de proposer des activités dans différents quartiers, des activités gratuites qui s'adressent aux jeunes, hein, avec l'enjeu aussi de recréer les liens entre la collectivité et les universités. À tout ça, ça me semble être un projet très intéressant qui va dans le sens de ce que constatent aussi les bistrotiers dans la revue, là.
Vous êtes bien sûr Canal B, vous écoutez l'émission Chercheur en ville. On se retrouve dans quelques instants après la chanson de Philippe Catherine, Borderline. Vous allez voir, on est dans le sujet.
Le métro ferme à 1h du mat. Le métro ouvre à 6h du mat. Monoprix ouvre à 10h. Monoprix ferme à 20h. Les enfants partent à 8h. Les enfants reviennent à 16h. Le repas commence à 20h. On débarrasse à 20h30. Je suis borderline. T'es borderline. Il est borderline. Nous sommes borderline. La dame du troisième sort à 10h. La dame du troisième revient à 11h. Les acédiques couvrent à 9h. Les acédiques ferment à 16h. Tu commences le boulot à 9h. Tu termines le boulot à 18h. Tu t'endors à 23h. Tu te réveilles à 7h du mat. T'es borderline. Je suis borderline. Il est borderline. Nous sommes borderline. Le feu vert s'allume à minuit. Le feu rouge à minuit 2. Le feu vert revient à minuit 2. Le feu rouge à minuit 4. La dame du troisième sort à 21h. La dame du troisième revient à 21h30. L'ascenseur descend à 21h30. Remonte à 21h31. Je suis borderline. À midi 16, un cri à 15h07, une voix d'homme à 22h, un chat à 1h, une radio à 2h20, une Mercedes à 5h du mat. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien.
Philippe Catherine et Borderline sur Canal B. Vous êtes toujours à l'écoute de Chercheur en Ville, premier numéro de la saison 2 consacré au temps, au pluriel. C'est en effet ce qui fait la une du dernier numéro de Place Publique à retrouver en ce moment en kiosque. Dans la première partie de l'émission, notre invité, le sociologue Christophe Moreau, recommandait une nouvelle gouvernance pour animer les temps, notamment la nuit et le dimanche, au cœur de nombreuses préoccupations ici à Rennes. Rennes qui est à l'image de la plupart des villes françaises où ce sont les pouvoirs publics qui peuvent influer sur la gestion de ces temps, en favorisant l'émergence de nouveaux lieux la nuit, par exemple. Mais quel rôle pour l'individu dans la construction de la temporalité urbaine ? Illustration avec les étudiants, nombreux à Rennes. Comment appréhendent-ils le passage d'une vie sans temps mort en tant qu'enfant ou adolescent à celle de l'âge adulte où plus personne ne les occupera automatiquement ? Ces questions seront posées dans cette deuxième partie d'émission. Le sociologue Christophe Moreau répond aux questions de Xavier de Bontride, rédacteur en chef de Place Publique, et de Christian Lebart, directeur de la Maison des Sciences de l'Homme en Bretagne.
On a évoqué avec vous, Christophe, déjà pas mal de sujets autour de notamment la vie de la ville la nuit et notamment dans sa dimension festive. Mais on peut peut-être aussi s'interroger sur, puisque c'est le titre du dossier, les 1000 temps de la ville dans Place Publique, sur une ville qui cherche aussi à être plus lente à certains moments de sa journée. C'est un thème qui vous tient à cœur, Christian Lebart. Vous pourriez peut-être préciser l'idée que vous aviez en évoquant ce sujet hors antenne il y a quelques instants.
Oui, la ville se définit dès le début du XXe siècle, par exemple chez Max Weber, comme un lieu de grande activité, de grande concentration, de grande densité démographique, et aussi le lieu par excellence de la vitesse, des rythmes trépidants, ceux du tramway, ceux de l'automobile.
Aujourd'hui, on dirait de la LGV et du métro.
Donc voilà, l'urbain, par hypothèse,
est
pressé.
Et pressé.
C'est l'homme pressé. Ça n'a cessé d'évoluer de façon très 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 brutale tout au fil du XXe siècle, et on peut aujourd'hui s'interroger sur une sorte de contre-utopie, de retour à ce que certains appellent la lenteur. Il y a compris des plaidoyers chez certains
éloge de la lenteur,
éloge de la lenteur pour reprendre un titre célèbre, et certains politiques relaient cette utopie en parlant de villes lentes, c'est-à-dire
apaisées. C'est un mot qu'on emploie souvent également.
Apaisées, de villes qui sauraient rompre avec cet imaginaire de la
frénésie
et qui sauraient conjuguer bonheur et tranquillité et lenteur.
Alors vous savez que dès qu'on parle de ville et de questions urbaines, il y a tout un vocabulaire qui est à la mode et que notamment les élus ou les techniciens emploient à satiété. Et en ce moment, le mot à la mode, l'expression à la mode, ce sont les aménités urbaines. Et c'est tout à fait dans le sens que vous décrivez. C'est-à-dire ces espèces de propositions qui feraient que la ville serait à la fois douce, fluide, apaisée, environnementalement agréable et acceptable. Enfin, tout cet imaginaire-là, effectivement, il est très présent dans le discours de la fabrique de la ville tel qu'on peut l'observer aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, le sociologue, observateur fin des rythmes de la jeunesse, Christophe Moreau ?
Justement, c'est pour ça que j'ai parlé d'altruisme dans le papier. C'est justement propice à cette convivialité, à prendre le temps de partager. C'est aussi ça la nuit, hein, cette ville dionysiaque qui s'oppose à la ville productive. C'est prendre le temps d'être ensemble, de discuter, d'être ensemble sans emploi. On n'est pas là pour produire quelque chose.
On n'est pas dans la performance.
On n'est pas dans la performance. On n'a pas d'autre visée que d'être ensemble. C'est pour ça que je parle d'altruisme.
Ça, c'est bien. Hein.
C'est intéressant. Et sachant que on a des philosophes, bon, je pense à Paul Virilio ou Helmut Rosa, il y a quelque temps, qui ont publié des bouquins sur l'accélération du temps. C'est vrai qu'on est un peu dans un engrenage, dans un temps qui s'accélère, des évolutions technologiques qui s'accentuent, tout va de plus en plus vite, et je trouve intéressant d'organiser, comme on fait rue Saint-Malo, la fête de la paresse, ou à Landugent, ils organisent le festival Les gens du Lent, donc on reprenne un petit peu le temps de se poser, et je pense que la nuit est propice à ça. C'est pour ça que cette temporalité, elle est intéressante aussi du point de vue anthropologique, pour se rencontrer et sortir de notre quotidien. On est tous happés par le quotidien, on a des agendas souvent très occupés, on saute du coq à l'âne, on a nos téléphones portables, on est connecté. Et ben la nuit, on se pose un peu, on va à la rencontre des autres, et c'est une question aussi de santé publique, et donc on a besoin d'avoir des lieux pour ça.
le droit de la à la déconnexion. On a entendu ça pas mal ces derniers temps. On a aussi dans Place Publique un article assez original sur le temps du Shabbat. Alors là, on est dans un temps religieux, dans un temps contemplatif, où tout s'arrête vraiment au sens propre du terme pour les juifs pratiquants qui observent cette règle du vendredi soir au samedi soir. C'est très bien écrit avec beaucoup d'humour et par Sylvia Rivka-Kersuzan dans notre article. Et c'est intéressant d'avoir regardé le temps aussi sous ce prisme-là, comme quoi un temps choisi, qui n'est plus un temps subi, mais un temps choisi dans lequel finalement on accepte de se remettre un peu en retrait ou en lisière du monde pour mieux y revenir ensuite. Voilà, ce sont des temps qui appartiennent à chacun. Là, on est dans le registre du temps de l'intime. Chacun peut construire sa propre temporalité urbaine d'une certaine manière, Christophe Moreau, si on pousse la logique jusqu'au bout.
Oui, après la question c'est celle de l'espace privé et de la vie publique, puisqu'en fait beaucoup des pratiques familiales, enfin pour s'approprier notre temps, on va les avoir dans la vie privée, de même pour les pratiques festives, ça se fait souvent dans les appartements. Après la question c'est comment on s'est institué publiquement cette façon de se réapproprier son temps et d'arrêter de courir. Moi, j'ai aimé aussi dans la revue l'article sur les loges maçonniques, où on est aussi sur une temporalité très spéciale.
Enfin, y compris article, dans le calendrier, hein, parce qu'ils ont plusieurs millénaires d'avance. Hein,
je vous le recommande. C'est très intéressant, cette observation qui est faite à la porte d'une loge maçonnique.
Ouais. À minuit, rue Thiers, à Rennes.
Mais à mon avis, on est moins sur des temps individuels que sur des temps communautaires. Je crois qu'il faut insister là-dessus. C'est au fond, la ville, c'est une juxtaposition de communautés, et chacune a à son rapport au temps. Il y a le rythme étudiant et la temporalité étudiante, et il y a évidemment une temporalité, un calendrier lié aux communautés religieuses. Et la difficulté, elle vient... Alors après, les individus à l'intérieur de ces communautés peuvent prendre des... Il y a évidemment une individualisation du rapport au temps. C'est-à-dire on s'émancipe de plus en plus de ces temps communautaires pour avoir un dimanche à soi. C'est-à-dire le dimanche aujourd'hui est défini comme un temps à soi, et non plus comme un temps de retour à la communauté familiale ou religieuse. Je crois que cette individualisation du temps et du rapport au temps, elle prend sens dans un contexte de fragilisation des communautés.
Vous avez évoqué, Christian Lebart, à l'instant, le temps étudiant ou le temps des étudiants. Est-ce que l'on peut vraiment considérer que cette période de la vie des jeunes qui suivent des études, et notamment des études supérieures, obéit à une organisation vraiment particulière qui ne se retrouvera pas forcément dans la suite de leur existence et qui correspond à cette période d'études où on est encore avec une vie communautaire, là pour le coup, de groupe très, très, très marqué.
Ah oui,
c'est quelque chose que vous observez de près, je sais.
Oui, moi j'ai surtout étudié en fait les pratiques des jeunes, pas seulement des étudiants.
Pas seulement les étudiants, c'est vrai.
Mais c'est vrai qu'il y a vraiment quelque chose de très particulier dans cet entre-deux, entre la fin de l'adolescence et l'entrée dans l'âge adulte. Après, toute la question par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de faire que la ville ne soit pas qu'une juxtaposition de communautés ou d'univers privés, mais qu'on construise ensemble cet espace public. Hein, c'est ça toute la question. Mais pour ce qui est des étudiants, c'est vrai qu'on peut considérer que jusqu'à la fin de la troisième année, il y a vraiment une temporalité très particulière, ils sont très occupés, on est dans un entre-soi très très intense. Et moi j'avais observé qu'à partir de la troisième année de licence, pour prendre ceux qui sont en université, eh bien on va avoir tendance à se reloger différemment, quitter la colocation, s'investir aussi dans un stage et dans une perspective. Et au niveau des consommations, notamment d'alcool, on voit qu'à partir de la troisième année, on commence à se calmer. Et on voit que là, on va se confronter davantage à l'altérité, à la vie sociale, à la vie productive, à la vie amoureuse. Et puis, il y a comme un effet de bascule autour de 21-22 ans. Mais pendant toutes ces 2-3 premières années de fac,
on y va à fond.
Il y a vraiment quelque chose de très singulier. Mais par contre, les étudiants ne revendiquent pas un repli sur soi. Eux, ils aspirent à voir d'autres gens. Alors, pas forcément des anciens. On avait fait comme ça des expériences sur les relations intergénérationnelles.
Ça commence à 35 ans, les anciens, non?
Non, mais c'est pas une question d'âge. C'est pas une question d'âge. Ils nous disaient nous on veut voir des gens autres et des gens sympas, qu'ils aient des cheveux blancs ou pas, peu importe, il y a des gens qui sont jeunes à 70 ans, hein, et puis d'autres qui vont être vieux à 25. Donc la question c'est rencontrer l'autre, ne pas être que dans l'entre-soi, et les étudiants aspirent à rencontrer d'autres gens, à dialoguer, ça se passe souvent très bien, mais démographiquement et puis culturellement, c'est vrai qu'on a tendance à enfermer la génération sur elle-même.
On a pu le vérifier, ce que vous dites là, de manière très très empirique, à travers le reportage de notre collaborateur Gilles Cervera, qui est allé pour faire ses instants de nuit. Il a déambulé dans la ville, et notamment, il est allé dans les jardins du parc des Gailleuls, à Rennes, bien connu, et qui vivent, alors là, tout au long de la nuit, à 3h du matin, c'est la ruche, et il a rencontré comme ça des jeunes, avec lesquels il a pu très spontanément, alors peut-être qu'effectivement certains breuvages avaient délié les langues, mais il a rencontré très spontanément des jeunes avec lesquels il a discuté, il a été très bien accepté, très bien accueilli, il le raconte avec beaucoup d'humour dans nos pages, et il donne à voir effectivement l'illustration parfaite de ce que vous venez de dire, cette envie de s'ouvrir à des gens différents pourvu qu'ils soient sympas, qu'ils nous écoutent un peu, et là la rencontre s'était produite en l'occurrence.
Il y a une charge d'empathie qui est très forte la nuit, et puis avec des produits qui désinhibent. Mais bon, dans votre revue, on parle aussi à un moment donné du livreur de journaux, hein, et il raconte que toutes les nuits, il y a des jeunes qui lui proposent de l'aide pour porter ses journaux.
Alors effectivement, cette manière d'avoir des temps professionnels, festifs, à différents moments, hein, dans la ville, c'est ça aussi qui façonne tous les rythmes urbains auxquels on peut s'intéresser. Alors, restons encore un instant, si vous le voulez bien, et puis on évoquera d'autres dimensions diurnes, celle-là des rythmes de la ville. Restons un instant encore dans la nuit. On a évoqué déjà à plusieurs reprises la préparation, l'élaboration ici à Rennes de cette charte de la vie nocturne. Vous en attendez quoi concrètement, Christophe Moreau ?
Ben, je pense que les acteurs locaux en attendent une nouvelle démarche de concertation.
Il y avait urgence, c'était nécessaire de revisiter un texte déjà un peu ancien dans le domaine ?
Oh, je pense que oui, puisque la première charte était un petit peu une injonction à l'adresse des cafés, des bistrotiers, quoi. Et donc on avait aussi besoin de regagner de la tranquillité en centre-ville. Donc aujourd'hui, on est sûrement sur d'autres attentes et le sujet est éminemment complexe. Donc moi, ce que j'en attends, c'est une méthode qui permette à chaque partie prenante d'avancer vers les autres. Hein, mais c'est vrai qu'il y a des attentes de la part des riverains qui veulent une qualité de vie nocturne. Il y a des attentes de la part de tous les acteurs qui font soit des sorties, soit qui ont une vie économique la nuit. Donc là, je pense que c'est une question de méthode et l'idée d'avoir un conseil de la nuit me paraît plutôt bienvenue.
Est-ce qu'il n'y a pas un redoutable paradoxe ? J'ai envie de parler de citoyenneté dionysiaque, puisque vous avez utilisé l'adjectif tout à l'heure. Est-ce qu'on peut imaginer une citoyenneté dionysiaque, c'est-à-dire en référence à un espace-temps qui justement se définit, enfin qui très largement, encore aujourd'hui, puisque les imaginaires nocturnes perdurent, qui continue à se définir comme l'envers de la citoyenneté ordinaire diurne, c'est-à-dire vous disiez tout à l'heure la nuit les rencontres sont possibles, les rôles sociaux se délitent un peu,
les masques tombent,
d'autres apparaissent. Donc du coup le lien social peut se forger sur une base beaucoup plus spontanée que dans le contexte diurne qui est plus régulé. Mais alors comment introduire de la citoyenneté dans ce contexte ?
Ben en tout cas, je pense que les professionnels de la nuit ont toute leur place dans cette activité et dans ce débat.
On sait, mais par exemple, professionnels de la nuit, c'est peut-être... Oui, bien sûr, mais est-ce que...
Vous mettez qui dans cette catégorie ? Il y a les patrons de bar, évidemment, mais pas que. Ouais.
Bonne question. Si on prend la question des patrons de bar, ils ont un rôle fondamental pour réguler les consommations. Et on sait très bien que ce qui s'est passé dans les années 2005, c'était parce qu'on avait de moins en moins de bars qui étaient actifs la nuit, qui proposaient des concerts. Et donc, on a eu des milliers de gens qui buvaient dans les rues. Hein, et on sait très bien que les tenanciers d'établissements de nuit ont un rôle de régulation qui est très important.
Ils le revendiquent comme tel, d'ailleurs, quand on les interroge.
Ils ont un petit peu de formation pour aller plus loin sur leur formation. Mais là, il y a un vrai enjeu. Mais au-delà de ça, les professionnels de la nuit, pour moi, c'est aussi les acteurs des transports, les acteurs de sécurité,
de la santé, à l'hôpital.
Si on parle de citoyenneté la nuit, il faut qu'il y ait des services aussi la nuit. Et pourquoi avoir un no man's land entre 1h et 5h du matin ? Alors bien sûr, on peut dire qu'il y a des gens qui vont faire trop de bruit, qui savent pas se tenir parce qu'ils sont désinhibés, ils ont pris des produits. Mais je veux dire, on doit aussi assurer un minimum de service, me semble-t-il. Si on parle d'occuper le temps de la nuit, ça veut dire qu'on fasse confiance aux professionnels des établissements qui accueillent du public, et puis qu'on ait aussi des agents dans les services de transport, dans les services de sécurité. Et bon, pour ce qui est de la santé, il y a toujours aux urgences quand même une activité assez importante les jeudis, les vendredis, les samedis soirs.
Oui, on en rend compte aussi, et c'est vrai que là il y a une forme d'humanité souffrante et souvent désemparée hein, que l'on peut croiser aux urgences au CHU ou ailleurs, qui donne à voir l'autre, l'envers du décor d'une certaine manière.
Mais le débat justement c'est pas faisons tout et n'importe quoi et puis lâchons les fauves la nuit, non, c'est comment justement on développe la liberté de tous et le respect des libertés de chacun à travers une activité aussi de professionnel de la nuit. Et c'est quand même pas logique qu'au 21e siècle, après 1h du matin, il n'y a plus aucun service proposé, alors qu'on a quand même des dizaines de milliers de gens potentiellement qui circulent la nuit.
Ouais, donc ce que vous dites, c'est au fond, il y a place pour une régulation de cet espace-temps dionysiaque qui ne soit pas uniquement du maintien de l'ordre, quoi. Ou de
la... Ben oui, même s'il faut du maintien de l'ordre
public. Hein.
Et mais il y a le Forum européen de la sûreté urbaine qui montre bien qu'on doit croiser les approches, c'est-à-dire avoir des approches éducatives. Bon, quand on dit éducatif derrière, ça va être sur les comportements puis sur la prévention par rapport aux produits et aux violences. Des approches éducatives croisées avec des approches culturelles, des approches de présence sur l'espace public et une approche de sécurité et puis une approche aussi de réduction de l'accès à l'alcool avec des arrêtés municipaux par exemple. Quand on croise ces différentes logiques, on améliore la situation.
On n'a pas parlé d'une catégorie dont on parle finalement pas souvent quand on s'intéresse à ces questions-là et qui pourtant est intéressante. Je pense aux enfants, les enfants dans la ville, le rythme des enfants, le temps des enfants d'une certaine manière. Alors là, c'est plus la nuit que ça se passe, c'est dans la journée. On a sollicité une de vos collègues de l'université Rennes 2 qui fait des études très très précises avec des outils modernes numériques pour mesurer les déplacements et les temps consacrés aux différentes activités dans la journée. Son article est passionnant. Parce qu'elle fait apparaître très clairement que finalement c'est l'emploi du temps des enfants et notamment des moins de 12 ans pour faire court est très très encadré, très rythmé, très segmenté avec des tas d'obligations très très codifiées et que les moments de liberté comme elle les appelle sont finalement très rares. Qu'est-ce que ça vous inspire ça vous regardez les jeunes quand ils sont un peu plus âgés que cette tranche d'âge mais on a l'impression que finalement les moments de liberté qui sont il est sans doute indispensable à la construction de la personnalité, de l'épanouissement, de la capacité à s'éveiller, à s'ennuyer, donc à découvrir, sont de moins en moins possibles dans nos sociétés contemporaines. Ça pose question.
Oui, après, là, il faudra faire un débat sur l'éducation, mais c'est vrai qu'on
est... Ça renvoie à ça, vous avez raison.
On est dans une société du plein, donc le rythme de l'enfant jusqu'à l'adolescence est basé sur le rythme scolaire. Hein, donc, toute la question, c'est à un moment donné de rendre complémentaire ce qui se fait à l'école avec d'autres apprentissages qu'on appelle l'éducation non formelle ou l'éducation informelle. Et c'est vrai que, pour revenir à un autre sujet, quand on est lâché dans la ville à 17 ou 18 ans et qu'on a du temps libre et qu'on n'a jamais appris à vivre avec ce temps libre, à vivre avec des temps d'ennui, bien là, il y a quand même un problème, si vous voulez, c'est qu'au niveau éducatif, on veut absolument remplir, on a peur de l'ennui, on a peur du vide. Mais lorsque les jeunes arrivent dans les villes après le bac, eh bien justement, ils doivent se réapproprier des modèles de comportement, de convivialité, d'être ensemble pour lesquels ils n'ont pas toujours eu l'éducation. Et il y a des enjeux d'être avec l'autre et il y a des enjeux aussi émotionnels. Et dans notre système éducatif, à toujours remplir, on ne prend pas assez le temps, sans doute, de mettre des mots sur les émotions. Bon, si on fait des comparaisons européennes, on a un vocabulaire plutôt pauvre en France en matière d'émotions. Si vous allez en Allemagne, dès les jardins d'enfants, ils ont des manuels avec des visages qui pleurent, qui sourient, et les enfants doivent mettre des mots sur les émotions. Hein, et donc ça renvoie à notre difficulté, nous, en France, à réguler nos émotions.
Et on retrouve bien le cœur de votre argumentation de début de cette émission. émission hein, sur justement la nuit, lieu d'émotion par excellence. Et si on n'a pas appris à aller travailler ces émotions depuis le plus jeune âge, on est forcément un petit peu démuni ou désemparé lorsque ce moment survient. Christian Lebart.
Oui, ce que ce texte et ce que vos remarques suggèrent, c'est aussi que la ville reste, on parlait d'imaginaire au début de l'émission, la ville reste synonyme de dangerosité sociale. Dans les romans du début du XXe siècle, on voit très souvent l'errance urbaine comme une expérience de liberté à peu près sans équivalent. C'est-à-dire l'individu qui se retrouve d'un seul coup à errer dans une ville qu'il ne connaît pas,
traverser
sans attache ni
nuit.
Familiale, ni religieuse, ni professionnelle, voilà, fait une expérience quasiment existentielle de la liberté. Voilà. Et il en reste quelque chose aujourd'hui, en particulier dans la terreur qu'inspire l'errance urbaine aux parents de jeunes enfants. C'est-à-dire on ne peut être que perdu dans la ville. Et de ce point de vue-là, tout ce qu'on disait tout à l'heure sur les jeunes, je crois, doit aussi se lire comme rupture, comme liberté acquise contre cette hyper-surveillance des enfants dans l'espace urbain. Ce serait intéressant de voir comment en milieu rural, par exemple, on continue à laisser, j'allais dire, errer les enfants dans ces espaces que peuvent être les chemins, la place du village, etc., avec des expériences de semi-confiance ou le lotissement, enfin voilà, des espaces semi-publics, semi-privés où on a un peu confiance. Là, c'est plus le cas en ville. Il y a une inquiétude. La ville est quand même le symbole, encore aujourd'hui,
du
danger. Quoi.
Oui, j'accompagne actuellement l'Observatoire des politiques de jeunesse dans le département de la Sarthe pour la direction de la cohésion sociale. Ils ont organisé un voyage à l'étranger. Ils sont allés en Allemagne. Et ils se sont aperçus que chez nos voisins allemands, il y a encore des terrains d'aventure. Nous, on a créé ça dans les années 70. Bon, on a tout fermé. Hein, mais ce sont des espaces qui sont pris sous la responsabilité des parents. Il y a des cabanes en bois, il y a des cordes, il y a des vieux pneus, il y a tous les vieux trucs qu'on avait.
On peut se blesser.
On peut faire du feu. Tout un tas de choses qu'on pouvait faire dans nos campagnes ces dernières décennies, mais qu'on ne fait plus beaucoup en ville. Alors nous, on a eu ces terrains d'aventure. On en a encore un à Villejean à Rennes, par exemple, où c'était des lieux formidables pour apprendre bien la liberté et puis pour s'approprier les espaces sans avoir toujours la surveillance des adultes. Mais ça, on en est revenu.
Est-ce qu'il y a encore des terrains vagues?
Il y a encore, si on va à Villejean, il y a encore ce terrain d'aventure. Mais en tout cas, les professionnels ont été plutôt subjugués. Hein, ces gens de la Sarthe étaient subjugués par cette capacité des Allemands à faire confiance aux gamins et puis à évoluer dans des espaces. Mais enfin, c'est un sujet aussi très intéressant.
C'est une manière aussi peut-être de se dire que l'appropriation de la ville passerait par des espaces urbains un peu délaissés, mais au bon sens du terme, pour permettre une réappropriation ou un usage différent de ce qui est programmé a priori. On peut aussi apprendre la ville en s'en emparant, c'est ça que vous nous dites, Christophe Moreau ?
Oui. Et puis un Rennais que j'apprécie, qui est sociologue, qui s'appelle Omar Zana, comme d'autres, hein, prône la ville des interstices, notamment pour les adolescents. Alors moi, je suis pas un spécialiste de la programmation urbaine, mais c'est vrai que on sait très bien que les jeunes, les adolescents dans les quartiers vont plutôt chercher la périphérie de leur quartier. Ils vont rester proches de leur quartier, mais plutôt à la périphérie.
Les franges et la lisière.
Ouais, et ça milite pour, et c'est ce qu'on a avec, comment on appelle ça, le green guérilla, c'est-à-dire les gens qui vont dans leurs espaces, s'approprier des friches plutôt en périphérie des quartiers pour soit faire des petits jardins collectifs ou soit pour des ados trouver des petits lieux un petit peu en friche pour s'amuser quoi. Alors là aussi ça suppose d'avoir des vides entre les quartiers, des interstices qui soient pensés comme des lieux qu'on peut s'approprier.
Voilà, c'est déjà la fin de cette émission de Chercheur en ville. Nous avons eu le plaisir aujourd'hui d'accueillir Christophe Moreau, sociologue, pour évoquer les temps de la ville, qui était le dossier que Place Publique a consacré dans son numéro 37 à ces questions de temporalités urbaines. J'étais en compagnie de Christian Lebart, le directeur de la Maison des Sciences de l'Homme en Bretagne, une émission organisée et concoctée par Ronan Lemoyre. Vous retrouverez Chercheur en ville le mois prochain. Nous accueillerons Thierry Filot à l'occasion de l'exposition au musée de Bretagne sur le boire et les pratiques liées à la boisson en Bretagne. Vous verrez, c'est tout à fait passionnant. Ça dit aussi beaucoup de notre rapport aux autres et à la ville.
Et pour aller plus loin, nous retrouvons Anne Kropotkin, chargée des médias numériques à l'UEB.
Nous vous invitons bien sûr à lire le dossier de Place Publique et à découvrir les publications de notre invité Christophe Moreau. Par exemple, La fête et les jeunes, espace public incertain chez Apogée 2007, ainsi que le site qu'il coordonne, Jeux des vies. Vous pourrez également consulter le site du Bureau des temps de la ville de Rennes et celui de l'association rennaise Adrénaline, association pour une meilleure gestion publique de la fête. Enfin, vous pouvez écouter écouter deux émissions de la Wiki Radio consacrées au temps des étudiants, avec notamment Patricia Loncle, enseignant-chercheur à l'École des hautes études en santé publique.